Chapitre 15. Le vieil homme avait le teint cireux de ceux qui sont près du grand voyage, les paupières rougies, les lèvres blanchies, fines au point de presque disparaître. Deux crises sérieuses la même nuit l'avaient affaibli davantage. Sa nièce était entrée, soucieuse de faire bonne figure, les yeux secs encore. « Tu n'as pas ta robe à carreaux rouges, celle que j'aime bien ? Elle est sale, tu voudrais que je la mette ? Non, peu importe. » Il montra la table de nuit où se trouvait une épaisse liasse de papier couvert entièrement de sa petite écriture. « Tiens, Jeanne, c'est pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Peu de choses. J'ai écrit cela voici 2 ou 3 ans pour vous raconter, comme je pouvais, l'histoire de ma vie, à toi et à ton frère. » La jeune fille avait saisi le paquet qu'elle feuilletait avidement, ne pouvant s'empêcher de laisser paraître un sourire où l'on voyait comme de l'indulgence. Il est question de cela, et elle montrait les trois rois, qui semblaient la narguer comme toujours. Ah, ne leur en veux pas. Quand tu auras lu cela, tu les aimeras peut-être. C'est que, sans eux, je ne serais sans doute jamais revenu et tu ne m'aurais pas connu. Ah, alors évidemment. Si je les ai donnés à Notre-Dame, c'est pour vous éviter des ennuis, mais je doute qu'on les y laisse bien longtemps. Ils intéressent trop de monde. Ils cachent donc des secrets si terribles. C'est ce qu'on a cru, heureusement pour moi. Ceux qui le croient encore vont être déçus. Qui cela, les jésuites, ce vieil Italien qui est venu te voir 2 fois? Les jésuites savent maintenant de quoi ils retournent, mais ce sont des gens prudents, ils voudront s'en assurer. Somme toute, ces 3 vilains leur ont fait peur autant qu'à moi, mais ils leur ont finalement rendu plutôt service. Et on parle du mystère de l'adoration. Comme je connais leur goût du faux-semblant, je suis sûr qu'ils en feront pour leurs élèves un beau thème de méditation, mais je n'en veux pas aux jésuites, ils ont été justes avec moi. Ils restèrent un moment silencieux. 3 rois, décidément, ils sont partout dans ma vie. 3 rois en Espagne, les 3 Philippe, 3 rois en France, cela fait le compte. Ah, ce n'est pas comme les papes, tiens, eux, je ne les ai pas comptés, mais ça doit en faire 10. À propos du pape, toujours pas de nouvelles de Rome, plaisanta-t-elle. Non, je mourrai curé, et toi, vieille fille. Il eut un pauvre sourire. Allons, ma bonne Jeanne, le rapproche. Tu vas aller me chercher le frère Benoît sans trop tarder. Il me faut les sacrements. Ah oui, encore une chose. Si mes frères reviennent, ou leurs enfants, tu sais, j'ai des jeunes frères que je n'ai jamais revus. S'ils viennent donc, sois bonne avec eux. J'hésitais pour la fin de mon voyage à racheter une monture ou à prendre le coche. On me dit qu'il s'en faisait un service régulier jusqu'à Mézières et Sedan, villes qui sont toutes deux sur la frontière des Pays-Bas. Je décidai donc de prendre cette voiture que, curieusement, on nomme du même nom de patache en français et en espagnol. Je n'étais pas habitué à ce mode de transport, amusant mais peu commode. Je l'avais pris jadis pour quitter Namur et je le retrouvais pour y retourner 24 ans plus tard. Je m'embarquais au petit matin, serré entre un homme en noir aux allures de notaire et une imposante matrone assez pourvue en mangeaille pour nourrir tout l'équipage d'un bout de royaume à l'autre. La bonne femme était d'ailleurs de tempérament généreux, distribuant à ses voisins griottes de son verger et saucissons tirés d'un verra nommé Philippe, comme ce cochon de roi d'Espagne. Mais qu'apparemment, en dépit de ses accointances avec l'ennemi, elle regrettait à l'égal de son défunt mari, passé l'année précédente, d'une congestion d'entrailles. Nous n'avions pas fait 1 lieue que nous savions tout de sa destinée, ou du moins le croyons-nous, car chaque tour de roue enrichissait cette biographie de très nouveau. Ce caillotage, s'il faisait passer le temps, irritait manifestement mon autre voisin, lequel essayait vainement de lire un petit livre qui me sembla d'histoire romaine. Il ne trouvait quelque répit qu'aux arrêts quand la gaillarde descendait de voiture pour parler à ses oies, serrées dans des caches accrochées au faîte du porte-bagages. Chacun s'extirpait alors de la carriole pour se délasser un instant, et tout un petit monde se retrouvait sur le pavé, 2 boutiquiers, une famille d'enfants sages, et jusqu'à un jeune moine qui semblait me considérer à l'égal d'un évêque. On avançait bien, car la route était bien droite, sans guère de montée. On dîna à Rethel, tandis qu'on dételait, et je me voyais approcher à la fois de la frontière et de mon salut. Hélas, je péchais par optimisme, car je n'étais pas au bout de mes peines. Dans l'après-midi, alors qu'on n'en était plus qu'à quelques lieues de Mézières et de cette nouvelle ville qu'on construit tout à côté, la voiture fut arrêtée par 3 soldats à cheval. Ils firent descendre tous les voyageurs, en examinèrent la mine. Ils ne furent pas longs à me reconnaître pour celui qu'ils recherchaient. Un gros curé, disaient-ils entre eux, il en a l'âge et l'habit. Faisons-le parler, s'il est espagnol, nous l'entendrons bien. Je pris mon français le plus recherché, imitant même l'accent que j'avais entendu à Paris pour protester de mon innocence. Ils étaient perplexes. Voyons son bagage. Si c'est celui que nous cherchons, nous verrons bien. On fit descendre mon sac. Curieusement, la peinture des 3 rois les laissa perplexes. Par contre, mon épinette les contenta beaucoup. Ah, une machine à musique. C'est ce qu'on nous avait dit. Ils m'empoignèrent fermement, malgré mes dénégations et menaces, et s'expliquèrent brièvement avec le cocher, qui s'apprêta à reprendre la route avec un voyageur de moins. J'entendis la mégère pousser des hauts cris. Un espion espagnol! Vous vous rendez compte? J'ai donné du saucisson à un de ces méchants hommes qui ont sans doute tué notre bon roi. Les soldats m'enfermèrent avec mes bagages à l'étage de la pauvre hôtellerie où ils étaient en faction. 2 d'entre eux restèrent à la porte, le troisième prit son cheval et partit au galop chercher du renfort et prévenir son officier. J'étais furieux contre moi-même. J'allais donc échouer, si près du but et de la façon la plus sotte qui soit. J'imaginais déjà où tout cela me mènerait, le retour honteux jusqu'à Paris, les aveux extorqués par les pires moyens, le jeu des puissants qui s'entendraient à me renier, à moins que ce ne fût une mort prompte et discrète dans ce pays perdu de l'Ardenne. Que pouvais-je contre 2 soldats armés? La hauteur de la fenêtre rendait toute fuite impossible. En désespoir de cause, je me mis à prier la Providence au pied du lit défoncé qui faisait le seul ornement de la chambre. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé que je sursautais. On frappait à la fenêtre. Une tête apparaissait au carreau. Je reconnus le jeune moine de la diligence et courus ouvrir la petite fenêtre. Il mit un doigt sur ses lèvres. Faites silence et venez vite. J'ai pu trouver une échelle. Je jetai un coup d'œil au dehors. Je reculais, saisi de vertige, à l'idée de passer par là. « Attendez, dis-je, je vais prendre mon bagage. Ah, ne pouvez-vous le laisser là, nous irons plus vite. Non, il le faut. Ah, donnez-le-moi alors. » Il redescendit à ne rien tendre, mon sac sur l'épaule, et tint fermement l'échelle. Je passai par la fenêtre, maladroitement, et descendis en me cramponnant au barreau sans regarder en bas. Nous avions devant nous des prés, fort découverts, au bout desquels une forêt barrait l'horizon. Nous n'avions pas le choix, c'est là qu'il fallait courir. Nous prîmes nos jambes à notre cou. Le moine était jeune et je peinais à le suivre, bien qu'il fût chargé et moi pas. Je pensais à l'évangile, à l'apôtre Pierre courant sur les pas de Jean au matin de Pâques. Hélas, nous n'avions pas fait 300 pas que des cris s'élevaient derrière nous. Me retournant, je vis nos gardiens gesticulant derrière la maison. Ils déchargèrent leur arquebuse dans notre direction, mais nous étions trop loin. Ils se mirent alors à courir. « Courage, me dit mon sauveur, nous serons bientôt au bois. » Je soufflais comme un bœuf, trébuchant sur les touffes d'herbe glissant sur une bouse. Nous approchions du couvert, mais les soldats allaient plus vite que nous. 100 pas encore, 50, 10, nous y étions. Heureusement, la futaie était serrée, le fourré épais. Le petit moine regarda alentour et désigna un gros chêne, juste à l'entrée de la forêt. « Grimpons dans cet arbre !»« Non, c'est trop près, ils vont nous voir. Hein, croyez-moi, dans un bois, la lisière est la meilleure cache. » Il m'aida à grimper sur une branche basse et me suivit lestement dans la ramure épaisse. Il était temps, les soldats arrivaient. Notre calcul n'était pas mauvais. Ils baissèrent la tête pour passer sous les branches et ne pensèrent même pas à lever les yeux. Le plus proche était à 10 pas. Nous l'entendions jurer. J'étais en sueur, haletant. Je sentais battre mon cœur comme un tambour. On devait l'entendre d'une lieue. Ils battirent en vain les fourrés, courant en tous sens, brouillant toutes les traces. Ils s'invectivaient l'un l'autre. Manifestement, ils avaient aussi peur que nous, songeant déjà au châtiment qu'ils recevraient pour nous avoir laissé échapper. Après quelques instants, ils se séparèrent. L'un retourna à la grande route, l'autre s'enfonça dans la forêt. Nous respirions. D'une branche à l'autre, à voix basse, je remerciais mon sauveur qui gloussait de plaisir comme s'il venait de jouer une bonne farce. « Vous ne me reconnaissez donc pas ?» me demanda-t-il. « J'avoue que non. Je vous aurais donc rencontré avant cette maudite diligence. Bien sûr, je suis novice à Notre-Dame d'Ivoire où vous êtes passé, voici 2 ans. « Ah, ça alors c'est la Providence qui vous a mis sur ma route. » La Providence est le doyen qui m'a envoyé à Reims rendre à l'évêque des livres d'heures qu'il nous avait prêtés. Sommes-nous loin d'Ivoire? Oh, à mon avis, guère plus de 7 ou 8 lieues. Nous y serons vite, ce doit être par là. Il montrait la direction de l'Est. Il se mit à rire. Ah, en tout cas, nous leur avons joué un bon tour. Qu'est-ce qu'ils vous veulent, ces soldats? Ah, ça, mon garçon, c'est toute une histoire. La nuit ne suffirait pas à la raconter. Ah, à mon avis, nous aurons le temps, je crois. Il vaut mieux rester ici. On ne pensera pas à nous y chercher. Nous restâmes ainsi une bonne heure à jaser comme des pies perchées dans le ciel, sous l'œil méfiant de l'agent ailé véritable qui se demandait quelle engeance nouvelle envahissait ainsi son territoire. Cette paix bucolique ne dura guère. Une troupe de cavaliers arriva et prit position sous le front du bois, guidée par notre malheureux gardien. Entre les feuilles, il me semblait reconnaître des hommes d'armes que j'avais vus à Villers-Cotterêts, mais je rêvais peut-être. Un officier les commandait. « Hardi, les gars, et 10 écus à qui le retrouve. Marchez bien, il a de l'avance !» Et ils se mirent promptement en route, assez espacés pour ratisser une large portion de forêt. Le soldat le plus proche se coucha sur sa monture pour éviter les branchages, sans soupçonner que nous pouvions être si près. Bien vite, le calme revint sur notre coin de futaie. Nous restâmes là longtemps, nous attendant à les voir revenir, mais rien ne se passa. On ne voyait nul mouvement non plus du côté de la grande route. La nuit vint, lentement, et je descendis avec soulagement de mon perchoir. Par nature, l'espèce humaine n'est pas arboricole, et la conviction m'en était venue de plus en plus douloureusement par la meurtrissure qu'infligeait la rudesse des branches à mon postérieur déjà mis à mal naguère par le trot du cheval. Le petit moine qui s'appelait Étienne semblait assez sûr de la direction à suivre. C'était encore le levant, là où la pleine lune allait bientôt se montrer, illuminant clairières et campagnes. Cela tombait bien, c'est par là qu'étaient partis les soldats, et l'on pouvait espérer qu'ils ne passeraient pas 2 fois au même endroit. La marche était difficile, les bois épais, le pays fait de montées et de descentes, coupé de nombreux ruisseaux. Après quelques heures à ce train, n'en pouvant plus, je me couchai au pied d'un arbre. Nous avions traversé une petite rivière, monté un haut talus, traversé une route assez large. On ne nous trouverait pas. Le jour revint vite. Je devenais décidément familier de ces réveils douloureux où l'on s'en va les membres brisés, la faim au ventre, humide de rosée. Je promis solennellement, si j'échappais à ces périls, de ne plus me coucher que dans un bon lit de plumes et de ne jamais en sortir sans avoir rêvassé 1 heure au moins. Mon guide était frais comme un gardon, enchanté de l'aventure, et je mesurais à cette aune l'avantage de la jeunesse sur l'âge qu'on croit vert encore, mais où l'homme déjà décline. Nous restions sous le couvert du bois quand nous le pouvions, traversions rapidement les prés et les champs quand il le fallait, après nous être assurés qu'il n'y avait aux environs nul mouvement suspect. Étienne ne savait où nous étions, mais restait persuadé qu'en poussant plus, nous arriverions à la Meuse, puis à la petite rivière du Cher où se trouvait Ivoix. Il n'avait pas tort, vers midi, nous débouchions sur une vallée plus large. « La Meuse !» s'écria-t-il. « Je ne me trompais pas. Et voilà Mouzon. Ah, nous sommes à 2 lieues de chez nous. Je suis sûr ici du chemin. »« Chez nous » avait-il dit. Je fus touché par ce mot, non seulement parce que j'arrivais en mon pays, mais parce qu'il me tenait pour un des siens. Et il me semblait que je reconnaissais aussi l'endroit. Ce petit pont sur la Meuse, ne l'avais-je pas traversé naguère avec le frère Inigo ? Je ne savais pas au juste si nous étions encore en France ou déjà aux Pays-Bas, tant les terres des deux États sont là entremêlées. La prudence nous commandait de rester sur nos gardes. Mais non, impatients, nous courions par le plus court chemin. Heureusement, on ne nous cherchait pas ici. En ce royaume que je fouillais, on ignorait sans doute que l'espion espagnol qu'on poursuivait était aussi le chanoine d'une petite bourgade si proche de la frontière qu'on aurait pu l'y prendre par étourderie. On me reconnut cette fois à Ivoix, mais il en eût été de même si j'avais changé de figure. Mon jeune compagnon était si agité qu'il contait notre histoire à tout le monde. On me fit fête, et j'eus même droit à l'office, à des actions de grâce particulières. Quant aux raisons qui avaient rendu mon voyage si mouvementé, on eut la bonne grâce de ne pas trop me questionner. Il est vrai qu'un homme qui devait sa prébende au roi et courait l'Europe quand ses collègues chanoines ne dépassaient guère le village voisin devait avoir des préoccupations bien étrangères aux soucis ordinaires de ce chapitre. Je me reposais là quelques jours avant de rentrer à Namur et je me demandais si je reviendrais un jour à Notre-Dame. C'est qu'on m'avait envoyé en France sous le prétexte de crimes imaginaires, n'en profiterait-on pas pour m'ôter ma prébende ? Peut-être même en avait-on déjà disposé, car on ne devait guère attendre en lieu à me voir revenir, sauf de ces périls où l'on m'avait envoyé. Ma bonne Antoinette me plaqua sur les joues 3 baisers sonores. « Jeannot, te revoilà, pour toujours !» En entrant dans cette petite maison qui était maintenant la mienne, j'avais le sentiment d'arriver enfin au bout du voyage, comme le navire qui touche au port après course et tempête. Ma sœur n'était pas surprise, elle m'attendait, elle avait déjà décidé que je ne repartirais plus. Déjà, elle s'affairait comme s'il était naturel que je sois déjà là, comme si j'étais parti la veille. Derrière elle, une petite fille me regardait avec de grands yeux, nullement effrayée. C'était Jeanne, évidemment, ma filleule, toute sérieuse, comme peut l'être une grande fille de 2 ans et 3 mois. Je la soulevai pour l'embrasser, malhabile. Elle ne pleura pas, comme je le craignais, ne rit pas non plus aux risettes que je lui faisais. « Tu n'as pas l'air autrement étonné de me voir, je n'ai pourtant pu t'avertir, je suis désolé, tout s'est passé si vite. »« Je savais que tu allais venir, j'ai même préparé ta chambre, » fit-elle d'un air finaud, comme si elle avait joué un bon tour. Cela m'inquiétait plutôt, je croyais avoir brouillé toutes les pistes, et voilà qu'on m'attendait ici, tout naturellement. « Il est venu des gens ces jours-ci, un petit frère et un jésuite. Oh, ils n'ont pas dit comme ça que tu allais revenir, mais je l'ai bien compris à leurs airs de ne pas y toucher. Ils venaient voir si tu étais déjà là. » Je m'installai donc chez moi, moins tranquille que je ne l'aurais voulu, dans cette petite chambre qui est encore la mienne aujourd'hui. Je mis au mur la fameuse peinture des trois rois, qui s'y trouve toujours, et dont Antoinette prit immédiatement en grippe les vilaines figures. Je sortis aussi de mon maigre bagage la vieille épinette, me disant que jamais sans doute instrument de musique n'avait connu tant d'aventures. Elle intéressa fort mon neveu Jean. Il avait à peine grandi, c'était toujours le même bon garçon, rond de visage, timide de tempérament. Dès le lendemain, je me rendis au couvent des Cordeliers. Il valait mieux sans doute prendre les devants et me faire connaître des seuls qui m'avaient jusque-là protégé. J'ignorais cependant si on savait même qui j'étais, et j'avais sur moi, à tout hasard, la recommandation de Fray Hieronimo qui m'avait été si utile à Paris. Je fus promptement rassuré, on m'accueillit avec cordialité, avec même une certaine déférence. Un courrier m'avait précédé. Je réalisai vite que l'on se souciait fort peu à Namur de ce qui pouvait se passer entre la France et l'Espagne. Non, une seule question agitait la ville, ou plutôt deux, si l'on compte aussi le franc-marché aux chevaux et bestiaux qu'on ouvrait ces jours-là, alors qu'il ne se tenait plus depuis l'empereur Charles. Cette question était bien sûr l'installation des pères jésuites et de leur collège. Tout le monde était bien d'accord pour fonder une nouvelle école, comme celle qui existait déjà à Dinan, mais les Augustins semblaient avoir la faveur des archiducs et du nonce pontifical. Les pères n'avaient pas renoncé, fort de la faveur du gouverneur Charles d'Egmont. Ils avaient acheté ou reçu quelques immeubles propres à tenir un collège et espéraient bien obtenir enfin de la ville le subside nécessaire à leur projet. Le magistrat de la ville hésitait, craignant de mécontenter l'un ou l'autre. On avait en quelque sorte marchandé à Paris ma vie contre un appui des franciscains, mais le supérieur des petits frères n'avait apparemment pas compris les choses ainsi. S'il m'attendait, c'est qu'il me supposait quelque pouvoir et comptait sur mon aide pour éviter l'installation à Namur d'une école d'Augustin. Vous comprenez, je n'ai rien contre ces gens, mais nous avons déjà bien du mal à faire vivre nos frères. Les gens de cette ville ne sont pas des plus généreux. S'il nous faut partager les aumônes, nous mourrons de faim. J'approuvais avec sympathie. Sans doute les deux points de vue se rejoignaient-ils. Ma pauvre personne importait bien, mais le franciscain ignorait que ma seule vie comptait plus que ce que je pouvais faire pour sa cause. Je jouais cependant le jeu et lui promis de l'appuyer, ce que je fis sans retard, allant voir avec lui le magistrat de la ville, demandant audience à l'évêque que Monseigneur Buisseret. Le petit frère s'y fit l'avocat des jésuites. On connaissait son opinion, qu'il avait déjà défendue avec acharnement, mais aussi avec quelques confusions. J'abondais en son sens avec la raison d'un homme étranger au débat, d'une sorte de sage qui avait visité bien des pays, vu beaucoup de monde. On se souvenait de moi, de mon passage à Namur 2 ans plus tôt, des dîners où j'avais été convié, fort des éloges qu'avait fait de moi le capitaine des Fuertes. On ignorait encore ma disgrâce et on me prêta l'influence qu'ont souvent les gens dont on ne sait au juste qui ils sont ni d'où ils viennent. On semblait à Namur plutôt favorable aux jésuites qu'aux augustins, qui avaient eu une vilaine affaire quelques années auparavant. Leur prieuré de Géronsard avait été ruiné, on avait été à 2 doigts d'en vendre les bâtiments à l'encan. Pouvait-on confier les deniers de la ville à des gens qui avaient si mal géré les leurs? Somme toute, on craignait surtout de mécontenter l'archiduc Albert, qui passait pour n'aimer pas trop la compagnie, probablement parce que son cousin d'Espagne l'aimait trop. Peut-être mon avis eut-il sur ce point quelque poids, c'est qu'après tout j'étais au roi Philippe, à ce souverain dont il était de plus en plus clair qu'il tirait les ficelles du pouvoir aux Pays-Bas. Le magistrat consulta ensuite les principaux citoyens, qui se réunirent à l'initiative d'un membre du conseil provincial du nom de Jean Gerlet. Celui-ci vint me voir, je ne me targuai de nul pouvoir, n'invoquai nul mandat qu'on aurait donné en cette affaire, mais j'insistai sur l'affection que portait aux jésuites Sa Majesté Philippe III, sur la valeur de leur collège dans tous les pays où ils s'en trouvaient, sur l'économie que ses pères faisaient des subsides qu'on leur allouait. Ce dernier argument n'était pas le moindre, car la ville manquait singulièrement de ressources. La décision allait tomber le 31 juillet. La ville offrait à la compagnie la maison de la veuve Bernard et un terrain 6 à la Monnaie pour y dresser école, ainsi qu'une rente annuelle de 800 florins, à la condition que pour la Saint-Rémy, ils ouvriraient leur collège et y prendraient des élèves jusqu'à la rhétorique. J'étais assez heureux de la façon dont les choses se passaient. J'avais été si longtemps un simple objet ballotté au gré des flots, sans autre espérance que celle d'y surnager, que je trouvais un certain plaisir à exister enfin par moi-même, à être écouté, à influer sur les petites affaires où je me trouvais mêlé. Les jésuites seuls ne furent pas dupes. Ils étaient manifestement plus au fait de ma situation réelle que ne l'étaient les franciscains, tant il est vrai qu'ils savent toujours tout mieux que tout le monde. Le père de Monin me le laissa finement entendre, lui qui avait naguère renoncé à son canonicat pour entrer dans la compagnie et donner à celle-ci sa maison. En fin de compte, monsieur Dufond, vous avez sauvé les cordeliers, alors que c'était eux qui étaient censés vous sauver. Vous en plaindrez-vous, mon père, répondis-je, il me semble qu'en cette affaire, j'ai surtout travaillé pour vous. Nous ne l'oublierons pas, et vous trouverez ici l'attention qu'on vous avait promise à Paris, aux mêmes conditions, bien entendu. Je vous entends bien, vous pouvez compter sur moi. Notre petit marché perdura jusqu'à ce jour. Je me fis discret et fus toujours bien reçu dans la compagnie, avec une amitié dont on eut la bonne grâce de ne jamais me faire sentir les sous-entendus. Namur était en sa plus belle saison, doucement blotti entre les forêts et les boucles argentées de ses rivières sous le soleil du début de l'été. J'étais presque aussi heureux de la retrouver que d'avoir rejoint ma famille. Sur la fin de juin, une bonne surprise ajouta à ce bonheur. Nous étions à dîner, sur le coup de midi, quand on frappa violemment à la porte. Mon beau-frère alla ouvrir, un grand escogriffe fit irruption dans la cuisine. « Juan, amigo !» C'était Contreras. Je le savais aux Pays-Bas, où, comme j'ai dit déjà, il était venu chercher un commandement l'année précédente. Il avait appris mon retour et voulait me saluer. Il était parti de Bruxelles le matin même et avait couru les 13 lieues de chemin sans même descendre de cheval. Je me remettais naturellement à parler espagnol, à la grande admiration des miens. Lui essayait par politesse de dire quelques mots de français, sans grand succès, car il mêlait à cette langue en usage à la cour les dialectes flamands qu'il avait sans doute, comme je le connaissais, appris en de moins nobles lieux. « Comment as-tu su que j'étais rentré ?» lui demandai-je. « Ah, c'est que tu es devenu célèbre. On a souvent parlé de toi ces derniers temps. » Et qu'a-t-on dit ?« Oh, c'est bien ça le problème. Certains disent que tu es un infâme conspirateur, pour d'autres tu passes pour un héros. J'ai même entendu que tu avais tué le roi de France. » Je m'esclaffai, mais d'un rire un peu forcé. « Voyons, Alonso, me crois-tu capable de tuer qui que ce soit ?» Tu as toi-même été arrêté et questionné, tu sais que nous sommes peu de choses et qu'il faut prêter peu d'attention à ce qu'on peut dire. « Ah, mais je sais que tu es innocent comme l'agneau qui vient de naître, » dit-il en me lançant une bourrade amicale à me détacher l'épaule. Et à propos d'agneau, on fit un sort à celui, succulent d'ailleurs, qu'avait rapporté de la halalchère l'excellent Simon Léonard. Il mangea comme un ogre, but à lui seul autant de bière en un repas qu'on en consommait d'ordinaire dans cette maison en une semaine, et bien sûr me raconta sa vie depuis ce jour où il était parti de Madrid de laver des accusations portées contre lui, et cependant persona non grata. Il se plaignit beaucoup de l'existence qu'il menait à Bruxelles. Albert Isabelle ne lui avait pas donné la charge qu'il espérait, et depuis bientôt 2 ans, il se morfondait et ne faisait pas grand-chose. « Ah, c'est que on n'aime pas trop les Espagnols à Bruxelles. L'archiduc se prend pour un roi alors qu'il n'est rien sans nous. Il va falloir que nous y mettions de l'ordre. » Je l'interrogeais sur les événements des derniers mois et le jugement qu'on s'en faisait aux Pays-Bas. Il était évident pour lui que le roi Henri n'était pas mort de la seule main d'un imprévisible illuminé. Ah, tout le monde savait qu'il allait périr, le jour en était arrêté, on disait même des prières pour celui qui devait le tuer. S'il ne savait au juste qui avait ordonné l'assassinat, il s'en réjouissait comme d'une bataille gagnée, comme d'un bon coup joué à son pire ennemi. Je le savais pointilleux en matière de religion, et il ne fallait pas chercher plus loin les causes de sa haine pour ce roi impie, mais j'appris que celle-ci s'était avivée d'un motif plus précis. Ce vieux pourceau est allé poursuivre jusqu'à Bruxelles la plus belle femme du monde. Tu parles de Charlotte de Montmorency, l'as-tu vue? Est-elle si belle qu'on le dit? Ah, si je l'ai vue, elle est à damner un saint. Je l'avais naguère imaginé mêlée à cette affaire d'enlèvement manqué, assez dans le genre de son personnage, mais tout cela s'était passé en dehors de lui et il le regrettait. Ah, imagine, curé, si j'avais pu la sauver moi-même des mains de ces bandits qui voulaient la livrer au roi de France, elle serait tombée dans mes bras, elle aurait vu ce que c'était qu'un gentilhomme espagnol. J'éclatais de rire à l'idée des périls auxquels avait échappé la belle princesse de Bourbon, égorgée au premier soupçon sur sa vertu. Je logeais Contreras chez moi, même si ma sœur n'était pas trop rassurée d'avoir un tel homme dans sa maison. Le lendemain, je lui fis visiter la ville. Avec son immense chapeau et son air princier, il fit quelque impression au marché, ne se retournant même pas quand un grand mouvement de son épée renversait à son côté une cage à poules ou bousculait une mégère. Namur n'était pas si grande, on me vit avec lui, on jasa sur les mystérieuses relations que j'avais encore en Espagne et ma réputation s'en accrut. Ce n'était pas inutile en ces jours où j'avais affaire à tout ce qui comptait dans la ville. Il voulut voir toutes les églises, priant chacune avec ses grands signes de piété propres à l'âme espagnole. Il fut étonné de voir à Saint-Aubin la pierre tombale de Don Juan, ce grand capitaine mort avant sa naissance, mais dont il honorait la mémoire comme celle du plus grand soldat qu'ait connu l'Espagne. Je repensais à l'éphémère ermite qu'il avait été dans la montagne de Moncayo. Comment cet homme avait-il pu se muer en ascète, troquer la dentelle pour le froc, mendier son pain? Ah, Juan, s'il est un temps de ma vie que je regrette, c'est bien celui-là. Eh, c'est toi qui m'en as fait sortir, coquin. Si tu n'étais pas venu m'y voir, on ne m'y aurait pas trouvé, et j'y serais encore. Allons, viens boire avec moi, du moins, ma vie d'aujourd'hui a-t-elle cet avantage. Où m'emmènes-tu? Je dus convenir que je n'avais aucune science des mérites comparés des cabarets de Namur, mais l'intuition en ces matières supplée souvent à l'expérience. La soirée était bien avancée quand nous sortîmes de la gargote qui avait eu notre faveur, mais nous avions tant de choses à nous dire que nous poursuivîmes notre promenade sur les berges de la Sambre et de la Meuse. J'en étais à raconter la façon dont, à cet endroit même, j'avais connu le capitaine Hernanque à la faveur d'une bataille de neige sous le fleuve gelé, quand soudain deux hommes nous tombèrent dessus, l'épée levée, sans un mot. Ils nous avaient suivis sans doute et profitaient de la solitude du lieu. Seul, je serais passé en un instant de vie à trépas, mais heureusement, je n'étais pas seul. Le vieux soldat qui était avec moi en avait vu d'autres. En un instant, il dégaina et se mit en garde. Les chopines qu'il avait avalées n'avaient apparemment nul effet sur la sûreté de son mouvement. « Hardi, Juan !» me cria-t-il, combattant de front deux adversaires. Mais le pauvre Juan n'était pas armé, et quand même l'eût-il été, tu eût davantage risqué de se blesser que d'oxyre quelqu'un. Il se contenta de ramasser et de lancer de gros cailloux à la tête du plus proche de ses agresseurs, non sans succès d'ailleurs. Une pierre à l'épaule le déséquilibra et il eut la gorge transpercée avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. Le second fit quelques passes, comprit vite qu'il aurait le dessous et voulut se sauver. Hélas pour lui, il n'en eut pas le temps, Contreras lui plaça une botte à sa façon et il s'écroula à son tour. Mon ami saisit les coraux collés. « Madre de Dios, des Français » fit-il, crachant par terre. En effet, les fraises, les choses, les pourpoints de ces gens n'étaient pas de ceux qu'on voyait chez nous, mais plutôt à la mode de Paris. Les deux hommes s'éloignèrent à tout jamais de leur patrie, car ils voguèrent bientôt pour leur malheur au fil de la Meuse, qui, comme chacun sait, ne va pas vers le beau pays de France, mais bien vers ceux de Liège et de Hollande. « Curé, me dit Contreras, j'ai l'impression que pour une fois, ces gens-là étaient pour toi plutôt que pour moi. » Il avait raison, et je ne dis rien, tremblant encore comme une feuille. Il m'avait donc recherché jusque chez moi, en pays étranger. Cette traque ne finirait donc pas. Je redoutais longtemps une nouvelle rencontre avec des sbires de cette sorte, mais soit que la disparition des premiers eût découragé leurs commettants, soit que le temps passé les eût à la longue convaincus de ma discrétion, je ne vis heureusement plus jamais l'ombre de ces gens que j'avais croisés à Villers-Cotterêts sur la route de Sedan et maintenant sur le bord de la Meuse. Alonso de Contreras quitta bientôt les Pays-Bas. Il passa à Namur me dire adieu sous le déguisement de pèlerin qu'il avait pris pour traverser la France. Il avait l'intention de se rendre à Malte, où un chapitre général devait se tenir, dont il espérait qu'il le ferait chevalier en récompense des services qu'il avait rendus à l'ordre. Nous nous embrassâmes avec effusion. Nous savions que nous ne nous reverrions jamais. Cet homme extraordinaire poursuivit la vie qu'il avait toujours menée. J'eus parfois des nouvelles un peu par hasard. Au fil des ans, on le vit combattre les Hollandais dans le Nouveau Monde, gouverner des villes italiennes pour le compte du roi d'Espagne, sabrer des femmes infidèles, rencontrer le pape, être fait enfin chevalier de justice, ce qui n'est pas mal pour un roturier qui avait commencé sa carrière militaire comme garde-sauce des armées de l'archiduc. Une seule fois, il m'écrivit. C'était pour m'envoyer une pièce de Lope de Vega, le roi sans royaume. Et on reconnaît cette curieuse aventure qu'il avait fait accuser d'être le roi des Morisques. Il vivait alors chez le poète, devenu son ami, et trop heureux sans doute d'avoir chez lui le modèle vivant de tant de drames. Je ne sais s'il vit encore aujourd'hui. Mon existence à compter de cet été 1610 fut celle d'un homme ordinaire, et ce que je vécus ne toucha plus aux affaires publiques ni à l'intimité des grands. Je n'en parlerai donc guère, ceux pour qui j'écris ces mémoires la connaissent et elles ne regardent pas les autres. On m'oublia peu à peu et je ne fis rien pour qu'on se souvînt de moi. Je restai 10 ans encore chanoine d'Ivoire, où je retournai souvent et toujours pour de longs mois. J'aimais le calme de ce lieu, l'amitié simple de mes confrères et la route que je faisais 2 ou 3 fois l'an pour m'y rendre me rappelait mes grands voyages de jadis. Cette prébente était devenue mon seul revenu. J'avais encore en ce temps la préoccupation des choses matérielles, car soucis d'argent et frénésie d'amour sont les tracas les plus communs de notre espèce. Chacun l'avait d'autant plus alors que l'on réformait la monnaie, dont tous les remuements publics avaient rendu le compte assez obscur. Le souverain d'or et le patacon d'argent en devinrent le fondement général, ce qui n'empêcha finalement personne de continuer à compter en livres et en florins. Une ironie du sort allait me faire passer ce souci. Comme ma pension de Cordoue ne m'était plus versée, je m'étais mis en quête d'un autre bénéfice dans une église de la région. Je m'étais fait recommander aux archiducs par Philippe III. La chose n'était pas trop difficile, car les relations que j'avais avec les jésuites ouvraient bien des portes. Le roi avait donc prié sa sœur et son Altesse l'archiduc de me favoriser, dressant dans une dépêche de janvier 1614 un tableau affligeant de mes infirmités et de la grande nécessité où je me trouvais, très heureusement exagéré. Certes, tout papier se laisse écrire, et je savais d'expérience qu'il ne fallait pas trop compter sur ce genre d'appui, mais ma position particulière me laissait espérer quelques succès, et j'étais assez confiant quand vint à se libérer, à peu de temps de là, le revenu de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste au château de Namur. J'appris alors qu'on me disputait cette prébende et que mon concurrent n'était autre que Nicolas Dupont, Nicolas dont je n'avais plus de nouvelles depuis des années. J'en fus fâché et de vilains ressentiments refirent surface. Quoi donc, non seulement d'avoir sali la plus belle histoire de ma vie, il venait me narguer jusque chez moi. J'entrepris de nouvelles démarches, je devins injuste, je me fis médisant. Ce fut en vain. Au début de juin, les lettres des archiducs le nommaient à cette chapelle où il ne mettrait jamais les pieds. Quant à moi, j'y allais si souvent en mes promenades quand j'y récitais tant d'ave. Nicolas était maître de la chapelle du couvent de l'Incarnation, bien en cours sans doute, je n'étais plus rien, et je me grossissais le crédit que mes petites affaires pouvaient me valoir. Je pris le parti d'un enfant boudeur et cessai de courir les prébendes. Je drapais ce désintéressement dans une sorte de renoncement chrétien et passais pour vertueux comme le luxurieux qui professe la chasteté pour cette fée conduire, tant il est vrai que les nobles sentiments ont rarement les ressorts qu'on croit. D'ailleurs, avais-je besoin de cet argent? Aucun, je n'avais guère de frais, et ma sœur ne me laissait nul souci domestique. Sans doute était-ce là la juste compensation au logement que je lui offrais, mais la bonne Antoinette n'avait pas de ses calculs et eût agi sans cela de la même façon. En l'an 1619, les archiducs vinrent à Namur pour poser la première pierre d'un ermitage qu'ils entendaient fonder dans la forêt de Marlagne. Ils avaient donné dans ce dessein 34 bonniers de terre aux Carmes des Chaussées qui voulaient y consacrer à Saint-Joseph un couvent de 6 cellules. Bien qu'assez proche de la ville, c'est là un lieu perdu au milieu de cette grande forêt qui en couvre les hauteurs d'une rivière à l'autre. Je m'y rendis, curieux de voir les archiducs. J'avais jadis chanté à leurs noces à Valence, puis ils s'étaient embarqués et jamais je ne les avais revus. Tout ce qui comptait dans le pouvoir civil et religieux se pressait autour des princes comme mouches sur un étron. Je les regardais d'assez loin dans tout le monde qui était monté jusque-là. Ils étaient petits, l'air un peu perdu, recueillant de bonne grâce les acclamations de leur bon peuple, s'avançant pour lui faire honneur. Albert marchait avec peine, tout courbé par la goutte. Je ne quittais pas des yeux l'archiduchesse. Elle avait fort vieilli, s'était empâtée. La coupe rose avait gâté son teint de jadis, ce beau teint de rousse si différent des olivrates d'Espagne. On s'était extasié quelque temps auparavant dans tout le pays sur son habileté aux armes. C'est qu'elle avait abattu le pape Gé au tir annuel de la gilte des arbalétriers. À la voir ainsi, je me dis que l'oiseau sans doute était mort d'apoplexie, à moins qu'on eût été la chasseresse pour qu'elle puisse consacrer son prix à doter les futures mariées nécessiteuses qu'on appelait à Bruxelles les vierges du sablon. Son regard se posa sur moi. Je m'inclinai. Elle vint jusqu'à moi. « Monsieur, dit-elle, cherchant manifestement d'où elle me connaissait, sans me faire l'affront de me le demander. J'avais alors 45 ans, 8 ans de moins qu'elle, mais c'est l'apanage de ceux qui semblent vieux à 20 ans de moins changer ensuite. Du fond, madame, j'ai servi comme chantre de Sa Majesté votre père, puis comme lieutenant de la chapelle du roi Philippe. J'avais parlé espagnol, avec un peu de peine après tant d'années, mais elle parlait maintenant bien français. « Jean de Namur, n'est-ce pas? Vous voilà donc en vos terres, heureux êtes-vous, comme dit le poète, pour être retourné, plein d'usage et raison, vive entre vos parents le reste de votre âge. » Je ne connaissais pas alors le poète dont elle parlait, qui avait fait en un sonnet un assez joli résumé de ma vie. Elle me prit par le coude sur le ton de la confidence, et je ne pus m'empêcher de penser au scandale qu'une telle familiarité eût fait à la cour d'Espagne. « Ah, monsieur le musicien, je n'ai pas votre chance. Reverrai-je un jour mon pays ?» Pendant de longues minutes, nous causâmes du temps jadis, de sa petite sœur Catalina, morte depuis bien longtemps en Savoie, de sa mène, Magdalena Ruiz, de la douceur du séjour de l'Escorial. « Mais, fit-elle soudain soucieuse, n'est-ce pas vous qui avez eu en France cette mauvaise affaire avec la compagnie ?» Madame, il est vrai qu'il m'est arrivé là quelques contrariétés, mais croyez bien que je n'ai fait que servir en tout le roi mon maître et du mieux que je pouvais. Elle conclut assez brusquement notre entretien. Ah, le mieux n'est-il pas souvent l'ennemi du bien? Ah, c'est de l'histoire ancienne que tout cela. Adieu, monsieur de Namur, faites bien votre musique, vous êtes bien heureux de n'avoir pas nos soucis. En saluant, j'eus au cœur un bien cuisant pincement. Je m'étais souvent demandé ce qu'il était resté de cette aventure dans l'esprit des grands, ce qu'en fin de compte pouvaient penser vraiment de moi ceux qui m'avaient envoyé dans ce guépier. On n'en pensait donc pas grand-chose et du mal plutôt que du bien. Somme toute, chacun se fut satisfait de me voir succomber au péril d'où la Providence m'avait tiré. Curieusement, parmi les figures du passé, je revis bien souvent celle de Florent de Berlaymont. Le comte avait eu les ennuis qu'on sait, peu après mon passage en cette terre avec le frère Inigo, il avait même été suspendu de sa charge à Luxembourg. Il revint à Namur 3 ou 4 ans après moi, plaider sa cause à un procès que lui faisait la ville. Du temps qu'il en était gouverneur, il avait logé des troupes nombreuses pour l'armée de Don Juan et n'avait jamais payé les indemnités convenues. Cette affaire le rattrapait 35 ans plus tard et on lui réclamait 16 500 florins. Je fus informé sans peine de son arrivée, tant il faisait tapage. Il me traita, comme à son habitude, semblant d'abord se demander qui j'étais avant de me taper dans le dos et de me tenir à l'épaule comme si je l'avais quitté la veille. Il poussait de hauts cris à la procédure qu'on menait contre lui. « C'est une honte, me faire payer de mes deniers l'entretien d'une armée. Si les gueux ont été vaincus, si les archiducs sont aujourd'hui là où ils sont, c'est bien grâce à moi qu'ils ne l'oublient pas. » Il se disait cependant en ville qu'il avait bien reçu les fonds en question, mais qu'il s'était alors perdu quelque part dans ses coffres. Il devait y avoir du vrai là-dedans, car les parties transigèrent et Berlaymont s'engagea finalement à payer 9 000 florins en 3 tranches annuelles. Albert et Isabelle approuvaient la transaction, Monseigneur l'évêque Buisseret veilla à la signature et l'échevin Philippe Henrard se frotta les mains. Le comte n'en tint pas rigueur à la ville, car il y séjourna souvent. Je n'osais pas l'interroger sur son épouse, cette Marguerite de Lalain, dont je gardais le souvenir comme une froide brûlure, alliage de peur et de lubricité. Voyant Berlaymont, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle, d'imaginer sa venue, le désir que j'en aurais, le mal qui s'ensuivrait. Il ne m'en parla jamais. Peut-être avait-il honte parce que, dans le jeu haineux qu'ils avaient mené, elle avait été la plus forte. Il ne changea pas en ses vieux jours, toujours à tempêter contre tous, à se brouiller et se raccommoder. On dit que la vie de ripaille est souvent brève, mais la Camarde est souvent capricieuse. Elle l'épargna complaisamment et il dépassa les 3/4 de siècle. J'étais à ses côtés quand il passa le 8 avril 1626 dans cette ville de Namur qu'il avait gouvernée et en fin de compte où il était moins étranger que partout ailleurs. Les jésuites tinrent évidemment leurs promesses et leur nouvelle école s'ouvrit au terme convenu, rassemblant tout ce qui se trouve à Namur de jeunes têtes bien faites. Ceux qui les connaissaient savaient qu'ils n'allaient pas en rester là. Les arriérés payés par Berlaymont ont permis à l'échevin de leur verser une rente annuelle de 800 florins, et comme il leur est venu en outre des donations de partout, on peut gager que leur fièvre de construire ne s'arrêtera que quand ils auront refait toute la ville à leur idée. Ils ont commencé, voici une dizaine d'années, cette nouvelle église dont on parle tant dans ce style compliqué qui est venu à la mode. Peut-être les temps futurs la trouveront-ils belle, je préfère quant à moi les vieilles pierres grises de Notre-Dame. Je n'en verrai pas la fin, mais mon ami, le père Guillaume, m'a assuré qu'au jour où on la consacrerait, elle serait dédiée au mystère de l'adoration des mages. Mes vieux Melchior, Balthazar et Gaspard, ramenés de la maison des Franciscains de Paris, rescapés de tant d'aventures, objets de tant de conjectures, ainsi honorés par la compagnie, les bons pères seraient bien capables d'une telle malice. Namur s'est fort peuplé depuis le début du siècle. C'est que les hommes croissent et se multiplient comme des lapins quand ils n'en sont point empêchés par guerre, peste ou famine. Elle déborde maintenant partout de ses remparts et on parle d'en faire de nouveaux, plus grands, plus loin. Que restera-t-il de la bonne petite ville de mon enfance? Sur la fin de 1618, une nouvelle comète traversa le ciel de nos pays. Comme de coutume, on y vit l'annonce de grands malheurs. 4 ans plus tôt, sur la fin de l'automne, il avait tant plu et neigé que les rivières avaient furieusement débordé, et on s'attendait à chaque instant à voir la Sambre et la Meuse engloutir la ville entière, jusqu'à ce qu'une forte gelée arrêta les eaux de ce déluge. Ma maison en avait été inondée jusqu'à son 3e escalier, et l'on voit encore au couvent des Récollets, marqué d'une ligne, le plus haut point des eaux. Il n'avait fallu pour cela nulle comète, et quelle calamité plus affreuse celle-ci nous vaudrait-elle? Mais la folie des hommes s'embarrasse-t-elle des astres pour être cause de ces malheurs? Si l'empereur Mathias avait trépassé, à peine éteint le feu céleste, c'était bel et bien les hommes qui avaient, pour sa succession, mis ses états à feu et à sang. Des années de guerre n'ont toujours pas décidé qui l'emporterait de Ferdinand ou des rebelles calvinistes de Bohême. Peu nous chaud qu'on s'étripe loin de chez nous, dans le Palque, le Valais ou l'Italie, mais comète ou pas, chez nous aussi le temps paisible du règne des archiducs semble bien révolu. Les jeunes rois sont souvent fougueux et ne veulent entendre parler de paix tant qu'ils n'ont essayé la guerre, sûrs qu'ils réussiront là où leurs parents ont échoué. La guerre, donc, s'est rallumée avec les Provinces unies. On a vu en 1622 les débris de leur armée vaincue à Fleurus massacrer les paysans à 4 lieues de Namur. Où cela nous mènera-t-il? C'est cela qui me fait peur pour ma petite Jeanne et pour les enfants qu'elle aura un jour. Voir la mort des autres est le triste privilège de ceux qui avancent en âge plus loin qu'il n'est ordinaire. Le 13 juin 1621, vers midi et quart, le gros bourdon de Sainte-Gudule sonnait un glas lugubre. L'archiduc Albert venait de mourir au palais du Codenberg. Comme Philippe II l'avait calculé en son temps, Isabelle perdait, à défaut de descendance, son statut de souveraine et nos provinces faisaient retour à l'Espagne. Prévoyant ce moment, elle avait, 5 ans plus tôt, demandé aux États provinciaux de jurer fidélité à son frère. À son veuvage, elle prit l'habit du tiers-ordre de Saint-François et voulut se retirer dans un monastère par-delà. Mais, comme on sait, le nouveau roi ne l'entendit pas ainsi et lui demanda de rester aux Pays-Bas pour gouverner en son nom. C'est que, le 21 mars de la même année, était mort aussi Philippe III, ce souverain fantasque que j'avais connu enfant, avec qui j'avais musiqué. Son fils, quatrième du nom, lui succédait à 16 ans à peine, troisième roi d'Espagne que je connus en mon vivant. Il était écrit que les favoris disposeraient à leur gré des descendants de Philippe II, qui n'avaient pourtant pris ses ordres de personne. Le duc de Lerne avait eu le père sous sa coupe, le comte d'Olivares eut le fils. Le nouveau roi était né pendant l'intermède de Valladolid, 4 ans après sa sœur Anne devenue reine de France. Ah, souvenir d'une époque. En 1622, sur la fin de septembre, mourut Nicolas Dupont. Cette mort me toucha plus que les autres. Je ne suis pas de ceux qui couvrent d'encens le suaire des scélérats et le trépas ne change rien, ni mon opinion sur les gens, ni ce que j'en professe. Je ne pars pas, mes amis, défunts de toutes les vertus. Nicolas en avait, certes, comme il avait des vices, et si nous avions été brouillés d'irrémédiable façon, nous n'en avions pas moins été longtemps les meilleurs amis du monde. Nicolas était mort d'une longue maladie dont j'avais eu vent déjà l'année précédente. Je ne pensais même pas à réclamer les revenus de Saint-Jean-Baptiste. 2 ans après m'en avoir distrait, il avait d'ailleurs résilié au profit de son frère, l'autre prébende qu'il avait à Andenne, preuve qu'il n'était pas dans le besoin. Je me souvenais de la naissance de ce garçon, dont la mère était grosse, au temps de notre départ pour l'Espagne. J'eus envie d'aller le voir, de lui parler de son frère, mais je n'en fis rien. Rien ne sert de trop remuer le passé. Jamais la mort ne m'avait frappé de si près, et cela me toucha davantage qu'il ne sied à un chanoine. Aux enterrements, à travers ses pleurs et ses prières, chacun regarde surtout la bière en se réjouissant de n'y être point, et il ne faut voir nulle autre cause à la liesse incongrue des repas de funérailles que le sentiment d'appartenir encore à la confrérie des vivants. Pour la première fois, je n'eus pas ce sentiment. Si des gens plus tard s'intéressent à ce que j'ai pu composer, ce dont j'ai quelques vaniteuses espérances, ils se demanderont sans doute pourquoi je n'ai plus rien écrit à mon retour d'Espagne, moi dont le motet « Omnes de Sabbat » et la messe « Un jour l'amant est l'aimé » furent si souvent chantés à la chapelle royale, moi dont les chansons amoureuses furent en vogue jusqu'à Paris. Ils seront dans l'erreur, car en vérité, je n'ai jamais cessé d'écrire de la musique. Plus autant, certes, que lorsque j'étais à la cour payé pour le faire, que la nouveauté de mon art et l'amour de certaines dames me clouaient la moitié de la nuit à mes musiques, mais enfin suffisamment pour occuper une maîtrise au dimanche d'une chapelle pendant une année entière. J'avais promis cependant de ne plus exister aux yeux du monde, c'était une clause du marché qui m'avait valu la vie, et je l'ai toujours respectée. J'avais eu jusque-là ma part de gloriole, je trouvais alors un plaisir plus subtil à brouiller les pistes, à donner à la chapelle de Notre-Dame des musiques sans nom, à mettre parfois des signatures de musiciens fameux au pied de copies qui étaient de ma main. Un seul homme ne s'y trompa pas et rit avec moi de ses finesses, ce fut le bon curé Renson, devenu un vieillard charmant et qui n'eut de sa vie qu'un plaisir, et encore était-il exempt de péché, la musique. Il avait assemblé une bien belle collection de musiques imprimées, et il ne se passait pas de messe solennelle sans que ses paroissiens ne goûtassent à quelque belle harmonie venue d'Espagne, de France ou d'Italie. Il tint toujours la bonté pour un don de Dieu et voua sa longue vie à la faire goûter à tous, fussent-ils bêtes, à manger du foin. C'était sa charité qui en valait bien d'autres. Il disparut en 1615 et j'aidai à faire l'inventaire de sa bibliothèque. Depuis 20 ans que je suis rentré au pays, je me suis voué à Notre-Dame, l'église des miens, la collégiale de mon baptême, de mes premiers émois musicaux. Je me souviens de Fonascu, de son dévouement, de ses ridicules. Sans doute suis-je devenu, pour les gamins que je fais chanter, quelques figures du même tonneau. Puissent-ils seulement m'aimer, comme j'aimais mon maître, et penser à moi, leur vie durant, en s'échauffant la voix sur l'hymne de Saint-Jean, « Ut quiant laxis, re sonare fibris ». J'ai souvent donné quelque argent pour l'entretien des petits chanteurs. Je l'ai fait modestement, passant pour un saint homme. Sans doute les circonstances m'ont-elles forcé, ici comme souvent, à cultiver des vertus que je n'avais pas. Je crains un peu qu'à l'heure du jugement, elles ne me soient comptées au rabais. Ma vie, somme toute, s'est heureusement écoulée. J'ai vu et fait plus de choses que je ne pouvais espérer. Si les années sont allées ainsi bien vite, ou plutôt si je suis passé vite en elles, j'ai eu mon content de plaisir, d'affection, de vanité, et n'ai point été malheureux quand l'âge et les circonstances me les ont ôtés. S'il est vrai que l'on connaît le bonheur quand on ne souhaite pas que demain soit autre qu'aujourd'hui, quand on s'est fait à l'idée sans doute qu'il ne serait pas meilleur, alors du moins aurais-je été heureux. J'ai les joies de la famille sans en avoir les charges, et mes neveux sont comme mes enfants. On a voulu faire du petit Jean l'alter ego de son vieil oncle, il fut petit chanteur comme moi, chantre ensuite, prêtre enfin. Quand il n'était encore qu'étudiant en théologie, à l'âge de 22 ans, je lui cédai ma prébende 10 voix. Après tout, il valait mieux lui assurer, dès son plus jeune âge, un revenu qu'il aurait toute sa vie, que d'en profiter jusqu'à la fin, au risque de la lui voir perdre. J'usais de toutes mes relations et trouvais des appuis à la cour pour remontrer très humblement à leurs altesses sérénissimes que, ne pouvant plus faire aucun service à l'église à cause de mes maladies continuelles et petitesses d'haleine, je désirais résigner au profit de mon neveu, maître Jean Léonard, moyennant leur bon plaisir, les 150 florins de pension annuelle de cette charge. Je n'avais pas de prébende de chanoinesse pour ma petite Jeanne, et c'est bien ainsi. À la place, elle aura mon bien. C'est bien le diable si elle ne trouve pas ainsi bel et bon mari, mignonne comme elle l'est. Les airs de mon natal pays, pour parler comme les médecins d'Espagne, ne m'ont été en fin de compte ni plus funestes ni plus profitables que ceux de par-delà. Les crises m'y ont pris tout autant, fréquentes autant de fenaisons, plus rares aux autres saisons. On m'a dit que mon mal était un gage de longue vie. Je me plais à le croire, puisque me voilà arrivé à un âge où ne parviennent pas la plupart des hommes. Je mourrai quand mon corps usé ne pourra plus supporter ces étouffements, quand je ne trouverai plus le bout de fil qui me ramène à la vie, quand je n'aurai plus la force de le tirer, tout simplement. Jean Dufond, dit de Namur, rendit son âme à Dieu à la fin du mois de mai de l'année 1634. Il fut enterré sans pompe au cloître du monastère de Monsieur Saint-François, devant la petite chapelle, avec l'habit des religieux et porté par eux. Si de nombreux documents conservés aux archives de Madrid et de Namur jalonnent le cours de sa vie, on n'a jamais retrouvé la moindre de ses œuvres. Le recueil qui s'en trouvait dans la célèbre bibliothèque du roi Jean IV de Portugal disparut lors du tremblement de terre qui détruisit Lisbonne en 1755. Nicolas Dupont n'eut pas plus de chance posthume, contrairement à Philippe Rogier ou Mathieu Romarin, leurs maîtres à tous deux, dont les musiques sont encore jouées aujourd'hui. Quant à Alonso de Contreras, on perd brusquement sa trace en 1633, alors qu'il s'embarquait de Malte vers l'Espagne pour occuper la commanderie qu'enfin lui avait donnée le grand maître de l'ordre. L'infante Isabelle mourut la même année. La guerre de 30 ans qui déchirait l'Allemagne s'étendit alors à l'Europe. Au printemps de 1635, la France de Richelieu déclara la guerre à l'Espagne et enleva aux Pays-Bas du Sud une bonne part de leur territoire.